qui nous sommes encore ensemble une autre fois pour partie 4 de notre série de la réformation de l'Église. Mon nom c'est Pierre Roussel, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, pour ceux qui, c'est la première fois que vous regardez les vidéos. Alors, c'est l'entreprise missionnaire et missionnaire international en association avec Mission Silo, l'école de la mission Éveil. Moi je suis au Canada et Mission Silo, école de la mission Éveil, ils sont au Congo, Kinshasa. Alors, partie 4, chaque membre et leur lieu dans le corps du Christ, qui est très important. Alors, avant que je rentre dans la conversation, ou l'enseignement, la conversation, je veux faire une petite exhortation qui m'est venue une semaine passée après, j'étais en train de parler avec Jean et Brigitte par un Skype. Nous sommes en train de parler, discuter un peu le programme et tout cela. Et ils ont mentionné deux mots qui m'ont vraiment frappé. Je savais que le Seigneur me parlait. Et c'est le mot amour et le mot fraternité. Alors, je veux faire un petit enseignement concernant le mot amour et le mot fraternité. Nous avons des références ici, commençant avec Jean 13, 34 et 35. Jésus nous dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Jésus nous donne un exemple quand il a dit, comme je vous ai aimé. 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 15, 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le mot comme encore. Exemple. Jésus nous donne l'exemple. Jésus ne nous dit pas quelque chose de faire sans lui le faire lui-même premièrement. Parce que lui, il est le chef de l'Église. Hein? C'est lui qui donne l'exemple. Il est le patron. OK? Colossiens 3, 13. Supportez-vous les uns les autres et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même, encore le mot exemple, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Ça a à faire avec l'amour, ça aussi. Romains 15, 7. Accueillez-vous donc les uns les autres comme, encore le mot comme, exemple, comme Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu. 1 Jean 4, 7. Bien-aimés, aimez-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Dernier verset, 1 Jean 4, 11. Bien-aimés, si Dieu ou comme Dieu nous a ainsi aimés, encore l'exemple, Dieu nous donne l'exemple, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Alors, une petite exhortation aussi concernant le mot fraternité. Le mot fraternité a l'idée de solidarité. Nous avons le mot solidarité qui vient du mot solide ou ferme. Quelque chose qui est solide ou ferme. Alors, le premier sens du mot fraternité, c'est lien, un lien. Un lien comme une chaîne. De parenté entre frères et sœurs. C'est-à-dire des enfants nés ou élevés par les mêmes parents. Alors, comme nous sommes nés de Dieu, nous sommes dans la famille de Dieu. Sens 2, lien affectif. Nous avons le mot affection du mot affectif. Le mot lien aussi, c'est quelque chose comme la chaîne, une chaîne, des liens entre frères et sœurs. Et sens 3, c'est le mot camaraderie. Lien d'amitié, le mot lien encore, d'amitié, d'amour, qui unit deux ou plusieurs personnes. Alors, commentaire bref sur cela ici. L'unité entre les croyants est impossible sans avoir l'amour de Dieu pour les uns les autres. Pensez-y une minute. Comment je peux avoir l'amour? Comment je peux travailler avec un frère, une sœur, travailler ensemble, à moins que j'aie de l'amour pour lui ou pour elle? C'est impossible. L'unité est basée sur l'amour. Arrêtez de travailler dans l'unité assis. Arrêtez d'avoir l'unité si vous n'avez pas d'amour pour les uns les autres. Ça ne marchera pas. Ça ne sera pas une vraie unité. Alors ici, ça va être une unité superficielle, ok? Alors le dernier commentaire ici, vous ne pouvez pas être en union avec quelqu'un, vous n'avez pas d'amour pour. Ça c'est très vrai ça, très vrai. Alors je dois faire un enseignement éventuellement sur 1 Corinthiens 13, nous appelons ça dans l'anglais, c'est « The Love Chapter », le chapitre de l'amour. C'est un chapitre que des années passées, ça ne disait rien. J'étais pas intéressé dans le sujet de l'amour jusqu'à temps, je dirais, 2008. C'est là que le Seigneur a vraiment commencé à travailler sur moi concernant l'amour envers les uns et les autres dans son Église. Même si je ne suis pas en accord avec eux concernant la doctrine, ça ne devrait pas m'empêcher de les aimer. Ça ne veut pas dire que je peux travailler avec eux autres, mais les aimer quand même. Mais l'amour, c'est une fondation pour l'unité, certainement. Alors, l'enseignement principal aujourd'hui, nous continuons avec, premièrement, pour numéro 4, la série partie 4, concernant la réformation de l'Église. Nous commençons avec Éphésiens 4, 12 à 13 et 15 à 16. Alors, nous commençons avec verset 12, qui est très important. Nous avons « pour le perfectionnement », j'aime pas le mot « perfectionnement », « pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du mystère et de l'édification du corps du Christ ». J'aime pas le mot « perfectionnement » parce que dans le grec, même dans l'anglais, nous avons le mot « equipping ».« Equipping ». Alors le mot « equipping », ici c'est un nom, c'est pas un verbe, c'est un nom. Alors nous avons le mot « catartismo », ok, ça c'est le grec. Ça veut dire complément de fourniture ou équipement. Alors, nous avons le mot equipping dans le mot équipement. C'est pour ça que j'aime mieux le mot equipping dans l'anglais que le mot perfectionnement. Même dans l'anglais, nous avons des traductions qui sont the perfecting of the saints, mais j'aime pas la traduction. Alors, le nom, ça c'est le nom. Mais le mot, le verbe de ce mot ici est trouvé plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Alors, c'est le mot catartizo. OK? C'est le verbe, veut dire action. C'est l'idée de redresser, compléter, rendre capable, réparer et être accompli. Je donne une couple de versets ici où ces mots sont utilisés. Matthieu 4, 21. De là étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui était dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparait, c'est le mot. Ici, le mot cartatizo, leur filet, ils réparaient. 1 Corinthiens 1, 10, je vous exhorte, frères, par le don de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tout un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis, encore le même mot grec ici, dans un même esprit et dans un même sentiment. Galates 6, 1, frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le, le même mot grec ici. Avec un esprit de douceur, prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Et dernier verset ici, Hébreux 11, 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu. Le mot formé ici, c'est le même mot dans le grec. Traduit différemment, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alors, moi, je dis ici cela, nous avons le mot « non », nous avons le mot « le non » perfectionnement, mais si nous amenons le verbe dans tout cela, ça veut dire que les croyants doivent être réparés, ils doivent être redressés, ils doivent être formés, et c'est ça. Éphésiens 4, 12. C'est ça le perfectionnement des saints. Pour qu'ils deviennent comme cela, c'est très important. Alors, nous continuons ici avec Éphésiens 4, avec 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. 15 et 16, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. 16, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Tout cela, c'est pour chaque croyant. Non seulement pour certains croyants, mais pour chaque croyant. C'est pour ça que nous avançons ici dans 1 Corinthiens 12, qui est un de mes chapitres favoris concernant le corps du Christ et comment le corps du Christ doit fonctionner ensemble avec les différentes parties, les différentes fonctions. Alors nous commençons ici, 1 Corinthiens 12, 12 à 27, avec un peu de commentaires à travers de cela. Alors 12, corps, comme le corps, ici Paul parle du corps physique, ok? Le corps physique est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps physique. Alors ici, Paul change au corps du Christ. Ainsi en est-il de Christ, on voulait dire le corps de Christ. 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, 14. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Le corps humain et le corps du Christ. 15. Paul y parle ici du corps physique. Compare au corps du Christ. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? 16. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? 17. Si tout le corps était un œil, ou était œil, où serait lui? S'il était tout lui, où serait l'odorat? On va dire le nez, les odeurs. 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Ça, c'est très important, cela. 19. Si tout était un seul membre, où serait le corps? J'ai dit ça une fois. J'ai pensé une seconde. Réfléchissez un peu. Imaginez-vous si le corps humain était seulement une main. Nous n'aurions pas un corps. Nous aurions seulement une main. Et ça pourrait accomplir rien du tout parce que la main a besoin des autres parties du corps. Je vais toucher sur cela. La main a besoin le restant du corps pour que la main puisse agir proprement à partir dans le contexte du corps humain. 20. Maintenant, donc, il y a plusieurs membres, plusieurs, et un seul corps, 21. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire au pied, je n'ai point besoin de vous. Commentaire bref sur verset 21. Toutes les parties du corps sont nécessaires. Toutes les parties, comme dans le corps humain, toutes les parties du corps dans le corps du Christ sont nécessaires, mais chaque membre doit être préparé d'avance pour la responsabilité dans le corps du Christ, et ça, ça a à faire avec Éphésiens 4, 12, le perfectionnement des saints. Partage, description, bref, concernant la fonction du corps humain dans l'acheminement d'une tâche simple. Moi, je me sers souvent de cela parce que je fais beaucoup de jeûne, concernant même un verre d'eau. Un verre d'eau. Si moi j'ai besoin d'un verre d'eau, mon corps, mon verre d'eau, le verre d'eau est seulement pour mettre dans mon corps. Mais pour me rendre à ce corps d'eau, ce verre d'eau, j'ai besoin de mes pieds, j'ai besoin de mes jupes pour me donner la direction, j'ai besoin de ma main pour prendre le verre d'eau et pour mettre l'eau dans ma bouche pour me donner l'eau dans mon corps. Vous voyez comment tout le corps travaille? Pour seulement un verre d'eau. Imaginez-vous dans toute autre chose dans la vie, l'ouvrage, l'espoir, tout cela, même la vie quotidienne. Le corps est engagé pour les tâches. Chaque jour, le corps, même le cœur bat, me donne le sang, le pompe le sang, pour que je puisse accomplir tout ce que j'ai accompli dans une journée. C'est comme ça que le corps humain travaille ensemble, chaque partie, et c'est comme ça que le corps du Christ doit travailler ensemble. Ici, nous avançons au verset 22. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Verset 22, 23. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes, j'aime pas le mot honnête ici, reçoivent le plus d'honneur. Commentaire bref sur 22 et 23. Les membres faibles ont besoin plus d'attention. Pensez-y une seconde. Les membres faibles ont besoin plus d'attention. C'est comme des enfants. Nous devons donner beaucoup d'attention à nos enfants pour qu'ils grandissent fort dans la vie. C'est la même chose dans le corps. Nous avons des nouveaux croyants. Nous avons des croyants qui n'ont pas grandi, sont immatures. Ils ont besoin plus d'attention. Ça, c'est très important, ça. Et je trouve que c'est le contraire dans le corps du Christ aujourd'hui. Nous mettons toute l'attention sur les croyants qui sont forts et nous avons négligé les croyants qui sont faibles. Ça, c'est pas dans la parole, ça. C'est contre la parole. C'est contre la volonté de Dieu. Verset 24. « Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont point pas besoin. » Ou en voulant dire « ceux qui sont plus forts. » Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. 25. Afin qu'il n'y ait pas de division. Pas de division dans le corps. Il n'y a pas de division dans mon corps humain. Il n'y a aucune division dans mon corps. Il n'y a aucune division dans votre corps. Il n'y a pas de division. Alors pourquoi le corps du Christ est plein de division? Un vrai problème. Mais que les membres aient également ou réciproquement soin les uns les autres. Ça, c'est un de mes versets favoris dans la Bible. C'est un verset encore plus puissant dans le grec. J'ai pas le temps de l'enseigner. Mais imaginez-vous si nous n'avions pas de division, mais tous les membres aient également soin les uns pour les autres. Quelle sorte d'église qu'on aurait aujourd'hui? OK? Commentaire bref sur verset 25. OK? Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles nous avons des divisions dans une église, même une seule église. Il y a beaucoup de raisons, mais une des plus grandes raisons, c'est la doctrine. Et je ne veux pas enseigner sur cela aujourd'hui. OK? Mais l'une des raisons principales est la division entre un croyant qui est faible et un croyant qui est plus fort. Nous allons presque jamais voir un croyant qui est faible et un croyant qui est fort qui sont ensemble. Moi, j'ai vu ça à travers des années. Même moi-même, j'ai tombé dans ce piège. J'appelle ça un piège. Moi, j'aimais mieux être avec les croyants qui étaient plus forts, à place de m'approcher à un croyant qui était plus faible. Pourquoi? Pour devenir faible? Non. Pour le ramasser. Pour le fortifier. Ça, c'est la tâche pour ceux qui sont plus forts dans le corps du Christ. Pour aider ceux qui sont plus faibles. OK? Le plus faible doit devenir plus fort avec l'aide du plus fort. Ça, c'est très puissant, ça. Le plus faible doit devenir plus fort avec l'aide du plus fort. OK? Ma force ne s'applique pas à moi-même seulement, mais aux autres aussi. Parce que nous sommes frères et sœurs dans la même famille qui est la famille de Dieu. Même dans la famille naturelle, nous avons des divisions. C'est pas correct, ça. Encore moins, nous devrons avoir des divisions dans la famille de Dieu. C'est pas correct. Si nous voulons avoir un corps fort, nous devons faire certain que toutes les parties du même corps sont renforcées ou fortifiées. Très important. Très important. Verset 26. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. 27. Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dernier verset. Dernière référence. Romains 12, 4 à 5 et 16. Verset 4. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, OK? Là, il parle aussi du corps physique, mais il le compare au corps du Christ. Dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Commentaire bref sur verset 4. Chaque partie du corps a une fonction différente pour participer dans l'œuvre du ministère qui est mentionné dans Éphésiens 4, 12. Comme dans le corps humain. OK? Verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous les membres les uns des autres. 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble, ne soyez point sages à vos propres yeux. Observation finale, la responsabilité principale de tous les leaders ou les encadreurs dans une église locale est d'aider les croyants individuels à découvrir leurs dons et aussi de leur aider à les développer pour qu'ils puissent les utiliser en conjonction avec les autres croyants de cette même église locale. Cela est l'une des plus grandes tâches qui est absente entre les leaders, les formateurs, aussi aujourd'hui dans l'église du corps. OK? Alors, c'est pour ça, qu'est-ce que je viens de dire dernièrement, ça va rentrer directement dans la prochaine vidéo qui va être concernant les dirigeants et leurs responsabilités. Soyez bénis. Amen.